Eh bien, rebonsoir les amis. Oui, le ciel commence à tomber. La nuit va bientôt arriver, mais on a encore un peu de temps pour l'inauguration de la tour Arsenal ici à Dijon. La tour à énergie positive. J'utilise toujours cette terminologie parce qu'elle est très contemporaine. La tour qui donne du pouvoir d'achat. Voilà. C'est quelque chose qui parle d'ailleurs à notre invité du jour. C'est Georges Bellour qui est avec nous, directeur général de Brest Métropole Habitat. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi êtes-vous là ?
Eh bien, tout simplement parce que avec Thierry Bièvre, on est à l'origine de ce projet brestois, hein, puisque on a été un moment avant qu'Elitis arrive, un petit comité qu'on a appelé un comité celte, où on était, nous, comme on est le premier bailleur social de Brest et du Finistère, et avec d'autres chefs d'entreprise, on s'est dit que ce serait bien que, alors que se crée le nouveau quartier des Capucins à Brest, qu'on donne, accentue cette touche de modernité et qu'on fasse une tour à Brest. Donc on a regardé les différents sites possibles. Et comme nous avions un terrain qui est situé en plein cœur de la ville, hein, à côté du quartier historique de Quai-Liversan, où se sont construites justement historiquement les premiers buildings de Brest à la reconstruction, avec le nouveau quartier des Capucins qui est juste en face, on se dit que ce terrain-là se prêtait le mieux à faire ça. Et donc, avec Thierry Bièvre, nous étions convenus, et parce qu'on a été convaincus dès le départ lorsqu'il nous a présenté son concept de tour, qu'il convenait que ce soit à Brest en Bretagne, soit la première ville à avoir ce type de tour, et une tour passive. Donc il a tenu ses engagements, parce que ça a été un long parcours quand même. La métropole a aussi joué le jeu en modifiant le plus pour permettre justement cette implantation. Et donc on est très content qu'aujourd'hui, les fonds, les travaux ont commencé, enfin d'excavation.
Et une tour avec beaucoup d'innovation.
Oui, une tour passive, bien évidemment, mais qui concilie pour la première fois en France du solaire et de l'éolien.
C'est énorme, ce sont des innovations avec la domotique d'ailleurs, puisque il faut expliquer que les occupants pourront, avec un coach énergétique, piloter leur consommation d'énergie. Vous qui connaissez bien le logement, on est parfaitement dans les usages aujourd'hui.
Oui, parce que les enjeux, mais là je vais dire un lieu commun, hein, tout simplement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
Bien sûr, bien sûr.
Donc nécessairement, dès lors on arrive sur de l'habitation passive, et même si beaucoup peuvent considérer qu'il y a une certaine antinomie entre une tour et puis les économies d'énergie, c'est aussi un moyen de densification de l'espace qui est quand même dans le contexte à venir des ZAN, de permettre de loger beaucoup de personnes sur un espace assez réduit.
La tour à Brest va loger.
Il y a 90 logements en tout, mais la grande tour, qui donc sera la plus haute, hein, qui va culminer à presque 70 mètres, donc là aura 62 logements, et puis il y a 28 dans une tour un peu plus basse qui fait 42 mètres. Au lieu des 68
mètres. 100% résidentiel.
100% résidentiel. Alors nous, en tant que bailleur social, on n'intervient pas. Nous, on est propriétaire du terrain. On aménage justement le reste du terrain côté de la tour Elitis. Nous, on a proposé ce terrain-là parce que c'était ce projet que je viens de vous expliquer, qui nous était commun avec Elitis, de faire cette tour passive.
Ça vous a séduit, ces ouvrages, quand vous voyez le résultat ici?
Nous, on l'a vu en arrivant de la ligne de tramway. Et oui, c'est une belle tour, quoi.
Elle est dotée de panneaux qui justement permettent de capter la lumière. Elle est dotée de panneaux photovoltaïques qui produisent de l'énergie, et d'ailleurs qui produisent plus d'énergie qu'il n'en consomme. Mmh. Donc pour vous, quand vous dans votre fonction, vous dites les ouvrages que je vais construire avec partenariat public-privé, parce que vous bossez aussi bien évidemment avec des promoteurs, vous dites quoi? Vous dites, vous avez une injonction qui est celui de ne plus artificialiser les sols, hein, c'est la fameuse circulaire ZAN, et en même temps, on vous demande à vous de loger les habitants. Parfois, ce sont des injonctions un peu contradictoires, avec des ouvrages qui ont très peu d'empattement au sol. Vous dites, vous, Georges, que c'est une belle alternative, justement, pour absorber la démographie de la ville.
Écoutez, on a ce qu'on appelle les contraintes physiques. Si d'un côté, il est plus possible de s'étendre sur des terrains non construits, bien évidemment, ça peut passer que par la densification de la ville. Donc, il y a plusieurs méthodes de densification. Bien évidemment, la surélévation de bâtiments existants, le renouvellement urbain dans le cadre des dents creuses ou de la démolition et reconstruire plus haut. Et bien évidemment, sur des espaces qui sont encore possibles d'être construits en ville, les anciennes friches, parce que le terrain sur lequel va se construire cette tour Elitis avant était occupé par 120 logements HLM que nous avons démolis. Et donc là, on recrée un quartier donc où il y aura du social et il y a cette tour Elitis qui là sera une offre
privée. C'est aussi une façon de revaloriser le quartier, bien évidemment.
Parallèlement, il y a une réhabilitation complète, un renouvellement urbain sur le quartier d'à côté de Quai-d'Iversan dans le cadre du NPN.
Alors, vous le savez certainement, le G20, qui est sous présidence indienne, a décerné deux prix à Elitis parmi les 100 ouvrages mondiaux. Eh bien, je vous l'apprends, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous vous dites quand on est français, parce qu'on va être un peu chauvin quand même, on se dit qu'en France, on a quand même un sacré talent. Quand vous voyez une entreprise du territoire qui s'appelle Elitis, qui est avec une capillarité nationale maintenant, bien évidemment, mais qui est une entreprise du territoire de Dijon, qui vient justement être récompensée parmi les 100 ouvrages les plus sobres au monde. Ça vous rend fier, parce que vous vous dites, ce qu'on va faire à Brest, hop, ça va être encore un niveau au-dessus.
Oui, ça nous rend fiers. Bon, d'abord parce que c'est un succès français. Mais après, je pense que c'est aussi un bon rappel qu'à l'heure où on nous explique plus c'est grand, plus c'est gros, mieux c'est, on part toujours d'un territoire. Et même les entreprises aujourd'hui internationales, à un moment, sont parties d'un territoire. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on a cette particularité d'être quand même très attaché et d'avoir aussi des capitaines d'industrie qui sont quand même très connus, qui ont développé leur entreprise, mais qui restent attachés au territoire, voire certaines ont encore leur siège en Bretagne. Donc oui, ça, c'est la richesse des territoires de pouvoir développer des projets qui, après, peuvent s'étendre ailleurs, et y compris avoir un succès mondial.
C'est très clair. Cette tour à Brest sera livrée quand? Les travaux ont démarré?
Les travaux démarrent l'année prochaine. Enfin bon, là, le PC va être déposé avant la fin de l'année. Après, il y a les consultations. Donc ça fait un début de travaux en 2025, je pense. Et puis après, je n'ai pas en tête le...
On va dire quand...
Ouais, ça fait 2026-27.
On tâchera... belle échéance, 2027.
Échéance. Il y a une 26 aussi, qui est municipale.
Celle-là. Absolument, il y a deux échéances. Bien évidemment, ce sont les échéances municipales et les présidentielles, bien évidemment. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Georges Bello. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Brest Métropole Habitat, où d'ailleurs nous avions déposé nos valises avec le maire, où il nous avait remis les clés de la ville, et on retournera bien évidemment le voir courant 2024. On fera un plaisir de passer justement vous rencontrer également, Georges. Merci à vous.
Merci, au revoir.